Voilà, bonjour à tous. Merci à Paul Emma, merci à l'équipe de Louange ce matin. Vous l'avez entendu, donc je suis pasteur Jean-Élie Moulin, responsable avec les anciens de cette assemblée au 118 boulevard du Plateau. Nous sommes heureux de vous accueillir en présentiel et puis en ligne aussi. Nous saluons donc nos auditeurs de par le monde. Que le Seigneur vous encourage par sa parole ce matin. J'ai lu une histoire qui m'a marqué il y a des années de cela. C'est Hérodote, un historien grec, 350 avant Jésus-Christ. Il nous raconte cette histoire qui s'est produite dans la ville d'une ville de Grèce. Et le roi s'appelait Crésus. En France, on a le proverbe d'ailleurs, riche comme Crésus. Sa ville donc était assiégée par les troupes perses. Et cette ville, c'était la ville de Thyatire, si je m'abuse, elle était... la ville de Sardes, et elle était réputée imprenable, cette ville. Elle était bâtie sur une falaise, il y avait une source d'eau à l'intérieur, les habitants avaient pris l'habitude de stocker la nourriture, et on disait que personne ne pouvait prendre cette ville. Et donc, Cyrus le Grand, le roi perse, il a quand même assiégé la ville de Sardes. Et le siège a commencé et les soldats ou les gens de Saoud n'étaient vraiment pas inquiets. En fait, ils sont devenus très nonchalants. Et Hérodote raconte qu'un des soldats de la ville de Saoud qui était supposé veiller sur la muraille, peut-être qu'il faisait chaud, et il a enlevé son casque, il a peut-être posé à côté de lui, et puis pendant qu'il jasait avec son compagnon gardien, il a poussé le casque et le casque est tombé hors de la muraille. Et ce soldat, vous savez ce qu'il a fait? Il a dit, il faut que je récupère mon casque parce que mon supérieur va me chanter la 9e de Beethoven si je ne l'ai pas. Donc il est descendu par un passage secret qui passait sous la muraille et qui descendait une falaise à un certain moment par un sentier escarpé. Il est allé récupérer son casque en sifflotant et puis il est remonté. Sauf qu'il y avait une armée en face. Et l'un des soldats perses a vu ce qui s'était passé. Il a vu le casque tomber, et puis il a vu le soldat surgir brusquement à un endroit, récupérer son casque et remonter en sifflotant. Et Saoud, qui était réputée imprenable, eh bien, elle a été prise. Parce que les soldats ont rapporté ça à Cyrus, ils ont envoyé un petit commando qui est passé, qui a trouvé le passage secret, qui a ouvert la porte, et puis l'armée peut aussi rentrer. Et Crésus a été capturé. Le soldat, il n'était pas vigilant. Il était nonchalant. Et ça lui a coûté peut-être sa vie et la vie de tous ses concitoyens. De sorte que nous devons réfléchir et nous rappeler au cours de notre série donc, sur redécouvrir l'Église, qu'une Église doit être vigilante. Une église doit toujours être vigilante. Nous sommes comme des soldats qui sont supposés monter la garde, qui attendons les ordres et le retour de notre général en chef, et nous devons être vigilants, nous ne devons pas dormir. Qu'est-ce qu'on va voir ce matin? En guise de... contexte ou déjà de plan, effectivement, on va voir deux éléments. On va voir que l'Église va être vigilante en veillant sur sa doctrine, et puis l'Église va être vigilante en veillant sur son témoignage. Paul, jusqu'à maintenant, a essayé d'encourager, de fortifier Timothée. Il a beaucoup à faire. Hein. Et il lui dit, écoute, Timothée, vas-y, sois courageux, je suis là avec toi. Et, tu dois continuer de proclamer la vérité. Et dans cette partie de la lettre, il va commencer à s'adresser aux gens ou parler à propos des gens qui causent des problèmes à Timothée. Il va parler des mauvais enseignants. Et donc, ces encouragements-là visent à susciter l'attention de Timothée, à dénoncer ces mauvais enseignants, leur mauvaise doctrine, et puis à équiper Timothée et l'Église contre eux. Donc, premièrement, l'Église est vigilante ou va être vigilante en veillant sur sa doctrine. Et je voudrais vous parler de la nécessité de l'auto-formation, entre guillemets. Trois éléments qu'on va voir. Paul enseigne que les responsables de l'Église doivent veiller sur la santé spirituelle des membres, ainsi que la leur à cause des faux enseignements. Et puis, il enseigne aussi que l'Église doit veiller sur elle-même. Au verset 14, voilà ce que tu dois rappeler en adjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent à rien, sinon à la ruine de ceux qui écoutent. En gros, il y avait dans l'Église des personnes qui se prenaient pour des experts, des hommes surtout, qui voulaient enseigner leur ignorance. Paul avait déjà averti Timothée dans sa première lettre, dans 1 Timothée 6, verset 3, je vous le lis rapidement. « Voilà ce que tu dois enseigner et recommander. Si quelqu'un enseigne autrement et ne marche pas selon les saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et selon la doctrine conforme à la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sert rien, il a la maladie des discours et des disputes de mots. » C'est flatteur, hein? « De là naissent l'envie, la discorde, les calomnies, les mauvais soupçons, les contestations interminables d'hommes à l'esprit corrompu, privés de la vérité et qui considèrent la piété comme une source de gain. » Paul n'est pas en train de dire simplement, « Ben écoute, tu dois avoir une saine discussion, un saint échange doctrinal sur certains mots, sur l'exégèse. » Mais là, il est en train de décrire un esprit contestataire qui veut discuter sans fin et surtout se disputer avec ceux qui ne sont pas d'accord. L'idée finale de la discussion n'est pas de trouver le moyen de glorifier Christ et puis d'être unis, mais l'idée centrale, c'est de chercher son propre intérêt et d'imposer ses propres idées à l'Église. Donc, c'est la responsabilité, vous le notez, de qui dans tout cela, si vous avez bien lu le texte, voilà ce que tu dois rappeler. En adjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots. Ce n'est pas Timothée qui doit s'assurer qu'on évite les disputes de mots, c'est l'Église qui doit s'assurer qu'on évite les disputes de mots. Timothée l'enseigne peut-être. Mais la responsabilité repose là sur l'Église. Cette mentalité ne doit pas se propager. Bien sûr, les anciens pourraient ou vont intervenir. Mais le texte souligne bien que l'Église elle-même doit décourager les discoureurs, les diviseurs et ceux qui cherchent à se remplir les poches. Votre responsabilité d'écouter ce qui se dit, de bien jauger et, oui, juger les enseignements ou les doctrines que vous allez entendre. Et si elles ne sont pas correctes, si elles ne sont pas bibliques, l'Église entière doit dire, ben non, non, ce que tu dis, je ne crois pas que ce soit ce qui est dans l'Écriture. Et forcément, cela implique que les chrétiens se forment eux-mêmes, ils soient dans un état de vigilance, bien entendu. Les anciens doivent enseigner, mais la responsabilité de l'Église, c'est de compléter cet enseignement suivant la vérité, d'étudier, de lire nous le rappelons à tous nos visiteurs, les anciens ici sont des personnes qui effectivement annoncent l'Écriture et l'Église a la responsabilité d'écouter l'annonce et de se dire, ok, là il l'a tiré de l'Écriture, c'est correct, je suis. La responsabilité de l'Église n'est pas d'être des bénis oui-oui qui écoutent leur pasteur et puis qui, ils éteignent leur cerveau. Le pasteur a parlé, donc on n'a plus rien à dire. Ce n'est pas ce qu'on enseigne ici. On enseigne que les anciens doivent lire l'Écriture, enseigner l'Écriture, et les croyants doivent eux-mêmes lire l'Écriture et comparer ce qu'ils comprennent à ce qu'ils entendent de la prédication. Les croyants se forment eux-mêmes et sont dans un état de vigilance. La deuxième chose que Paul fait remarquer à Timothée dans cette partie de sa lettre, c'est que Timothée doit écarter les discours vides et profanes. Ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. Leur parole rongera, comme la gangrène. Et Paul se permet de citer des noms là. Il y a Hyménée, il y a Philette. Ce sont des hommes, des membres de l'Église au début qui ont décidé qu'ils étaient plus grands, plus forts que Paul et qui se sont écartés de la vérité en enseignant quelque chose d'hérétique. Ils disent « la résurrection s'est déjà produite ». Et ils déstabilisent, ils renversent la foi des chrétiens. Donc Paul exhorte Timothée à se trouver loin de toute hérésie, à éviter cela. Et il cite les gens qui propagent l'hérésie. Hyménée et Philette, c'est des enseignants rebelles qui ont décidé de déformer l'Évangile. En fait, Hyménée est déjà cité dans 1 Timothée, sauf qu'il avait un autre associé qui s'appelle Alexandre. Donc vous notez qu'il n'était pas seul, hein? Misery Loves Company. Donc ici, il a trouvé un associé dans le crime, premièrement dans Alexandre, et puis il a aussi visiblement corrompu Philette. Et leur hérésie consistait donc à proclamer que la résurrection finale s'est déjà accomplie, c'est-à-dire que c'était les premiers chrétiens libéraux. On commençait à dire, « Bon, tu sais, Jésus, il a un impact spirituel sur ta vie. » Et puis, il ne change rien vraiment au quotidien. Il ne faut pas t'attendre à ce que, mon cher, quand on va t'enterrer, que ton corps sorte de la tombe. Et cela est destructeur parce que forcément, ça tue notre espoir et notre espérance. On nous dit que, bon, mais cette histoire de paradis, d'éternité, bon, ce sont des images. Parce que tout ce qu'il y a à vivre, c'est cette vie présente. Et comme nous l'a rappelé Leif, il faut vivre la meilleure vie possible maintenant parce qu'après ça, il n'y a pas. Non seulement ils disaient cela, mais en plus, ils prêchaient leur misère en accentuant le fait que les chrétiens devaient être les plus rigoureux, les plus misérables possibles. Il fallait qu'ils soient des ascètes. Il fallait qu'ils ne se marient pas. Il fallait qu'ils évitent tous les bons repas possibles. Hyménée, Alexandre et Philette ne m'auraient jamais persuadé. Mais bref. Ce qui est embêtant tout de même avec ces gens-là, c'est qu'ils avaient déjà été mis sous discipline. Dans 1 Timothée 1, verset 20, Paul nous dit qu'il a livré Alexandre et Hyménée à Satan. Ça ne veut pas dire qu'on a fait une cérémonie bizarre où on a appelé Satan pour qu'il vienne les chercher. Je rassure tout le monde. Ça veut simplement dire qu'on a dit à ces hommes-là, écoute, tu ne vas pas pouvoir venir dans l'église et enseigner cette bêtise-là. En fait, nous allons te demander de ne plus venir tout simplement à l'église. Parce que tu refuses de te repentir et tu annonces des choses qui sont contraires à l'Écriture. Tu ne fais pas partie de notre communauté. Nous prenons nos distances par rapport à toi. Et si tu n'es pas avec nous dans notre communauté, eh bien, tu te retrouves sous l'influence du diable. C'est ce que ça veut dire. Et l'idée, c'était de faire réfléchir les individus pour qu'ils se disent « Ah non, ce n'est pas une bonne chose finalement. » Et qu'ils reviennent, qu'ils se repentent. Mais, visiblement, cela n'a pas marché. Ça a même continué, puisque là où Paul a cité Alexandre et puis Hyménée, maintenant il cite Philette. Peut-être qu'ils ont continué à corrompre des gens. Et donc Paul insiste auprès de Timothée, il lui dit, continue d'éviter ces gens-là et commence à dire très clairement à l'assemblée, ne te retrouve pas en présence d'Hyménée, Alexandre et Philette. Ce sont des gens qu'il ne faut pas fréquenter. Ce sont des gens auprès desquels tu risques d'entendre des éléments doctrinaux qui vont te corrompre. Paul compare leur enseignement à de la gangrène. Aujourd'hui, aucun d'entre nous, pour la plupart, n'avons vu de gangrène. Mais la gangrène, c'est du tissu mort. J'ai rencontré un homme il n'y a pas longtemps, ici, que j'ai essayé d'évangéliser. Il avait un cas de diabète très difficile. Eh bien, figurez-vous qu'il avait perdu déjà sa jambe et puis il était en train de perdre son pouce parce qu'ils étaient gangrénés à cause de sa maladie. Et l'Écriture nous dit que c'est la même chose. Continuer de fréquenter des individus qui sont nocifs et qui détestent, qui rejettent Jésus-Christ est dangereux. Et donc, l'Église doit pratiquer la discipline. La discipline dans l'Église, ce n'est pas une chose facile. Mais c'est un élément nécessaire. Et je le dis, aucun pasteur sérieux n'aime se trouver dans une situation où il va placer des membres sous discipline. Mais aucun pasteur sérieux ne peut s'en abstenir. Parce que ne pas le faire, c'est une désobéissance au Seigneur Jésus. Dans Matthieu 18, à partir du verset 15, le Seigneur détaille un processus de mise sous discipline. Il dit, écoute, si ton frère a péché, va et reprends-le. Et chers frères et sœurs, autant que nous n'aimions pas cela, c'est un ordre. Jésus ne nous donne pas un conseil. Jésus ne nous dit pas, il serait bon qu'éventuellement tu lui suggères. Jésus dit, non, tu vas et tu lui dis, écoute, pardon, mais ton comportement là, enfin non, il ne faut pas dire pardon. Ton comportement n'est pas bon. Ton comportement n'est pas bon. Et tout ce processus là, c'est un ordre. Si le frère se repent, c'est un ordre. On oublie l'affaire. On oublie, on n'en parle à personne, c'est réglé. Le frère dit, effectivement, je n'aurais pas dû faire ça, on enterre la chose. Mais si ça continue, il faut passer à une autre étape, c'est un ordre. Et donc, toutes les églises qui prétextent aimer l'autre et qui ne pratiquent jamais la discipline, déjà désobéissent à Dieu et démontrent qu'en fait, ils haïssent l'autre. Ils ne sont pas dans un état d'amour, là, de laisser l'individu dans sa gangrène. Donc, la mise en discipline, elle est là pour préserver l'Église dans certains cas de mauvais enseignements qui vont corrompre et garder des âmes sous la colère de Dieu. Et vous allez me dire, bon, je lis dans le bastion que constitue l'Église chrétienne du plateau. On n'a pas à s'inquiéter des fausses doctrines. Mais si vous faites ça, vous êtes comme le soldat qui est sur sa muraille et qui a perdu son casque. Il y a de faux enseignants partout aujourd'hui. Hier encore, j'étais avec les jeunes adultes. L'une d'entre elles m'a dit, il y a quelqu'un qui est venu me voir et qui m'a demandé est-ce que j'étais vraiment chrétienne. Et puis elle m'a dit, non, non. Écoute, tu n'as pas besoin de te faire baptiser, mais tu dois répéter cette prière-là après moi. Et puis, elle a essayé de lui faire répéter une prière. Elle m'a dit, j'ai le livre. Et puis, elle me l'a montré. comme Paul cite les gens, je les cite aussi. C'est monsieur Chris Oyo. Ah, j'ai oublié son nom. Bref. Un prédicateur qui nous vient d'Afrique et qui prétend que lorsque vous parlez, c'est comme si Dieu parle. Si vous confessez quelque chose, vous l'obtiendrez. Vous ne pouvez pas tomber malade parce que Dieu veut que vous soyez en bonne santé. Les fausses doctrines et les faux enseignants sont partout, ici même à Gatineau. L'Église doit être très prudente. Troisième chose que Timothée doit éviter, ce sont les discussions folles et ineptes, sachant qu'elles font naître des querelles. Elles font naître des querelles. Peut-être un prolongement de la discussion de tout à l'heure. Paul dit qu'il faut se garder des querelles. Je ne sais pas si vous avez entendu, cette semaine, il y a une dame qui a passé au moins une nuit en prison. Vous savez pourquoi? À Montréal. Parce que ses voisins ont porté plainte contre elle, disant qu'elle avait proféré des menaces de mort à leur encontre. La police est venue chercher la dame, et elle n'a rien compris de ce qui lui arrive. Donc, les policiers disent, « Madame, apparemment, vous avez dit que vous alliez tuer vos voisins. » Elle a ouvert de grands yeux, elle n'a rien compris. Elle a réussi à prouver finalement qu'elle n'avait jamais proféré ces menaces. Et donc les voisins se sont fait arrêter ou mettre une amende pour fausse menace de mort. On n'a pas le droit de faire ça dans la loi. Et puis les journalistes expliquent que ces deux voisins là-haut, ces deux couples de voisins avaient une histoire de querelle. Ils avaient à se plaindre les uns des autres, et puis ça a escaladé, et finalement, l'un des couples a inventé des accusations de fausses menaces de mort. Le pasteur et les membres doivent éviter les disputes de mots, les débats inutiles et littéralement sans éducation. C'est comme ça que Paul les appelle. Si on n'est pas vigilant et si on n'essaye pas de tuer les désagréments comme ça qui escaladent dans l'Église, eh bien, on va déboucher sur des querelles. Et le mot « querelle », il est quand même important. C'est en fait un mot qui veut dire « combat ». Ce sont des disputes. Et je vous le dis franchement, il y a certains frères et sœurs, je ne pense pas qu'ils m'en voudront si je le dis, Ils sont traumatisés jusqu'à maintenant parce qu'ils ont vu des gens se battre littéralement dans l'église. Et ça ne devrait jamais se faire. Ni physiquement, ni en parole. Et ça ne veut pas dire qu'on n'est jamais en désaccord. Hein? Mais ça veut dire que nous, en tant que chrétiens, nous réglons nos désaccords de manière charitable, de manière qui honore Christ. Les querelles, ces combats-là doivent être évités. Je voudrais vous faire lire dans le livre de Jacques. Jacques au chapitre 4. Il faudrait qu'on lise un peu ces versets-là ensemble, s'il vous plaît. Jacques, c'est une lettre qui est écrite par le demi-frère de Jésus. Nous sommes après Timothée. Jacques au chapitre 4. Je le souligne quand même parce que ça va être important pour bien discerner de quoi on parle. Jacques 4, après Hébreux, il y a Jacques, chapitre 4, à partir du verset 1. Jacques 4, verset 1, dans la version à la colombe, donc il nous est dit, « D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles, même mot, parmi vous ?» Sinon, donc d'où viennent-elles? Eh bien, les querelles viennent de nos passions qui guerroient dans nos membres. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux sans rien pouvoir obtenir. Vous avez des querelles, même mot, et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal afin de tout dépenser pour vos passions. Lorsqu'il y a des querelles dans l'église, dans un couple, eh bien c'est parce qu'il y a au moins l'une des parties qui a décidé que ce qu'elle a ou ce qu'elle voudrait voir arriver doit se produire. Et on insiste et on se bat avec l'autre. Au lieu de se dire, ben, si l'autre n'est pas d'accord avec ce que je dis, mon premier réflexe doit se demander, mais pourquoi j'insiste? Pourquoi je veux que ce soit mon opinion qui prévale? L'Écriture nous dit, repousse les discussions folles et ineptes. Repousse les fausses doctrines, repousse l'imposition de tes désirs ou désirs d'autres personnes qui ne sont pas centrées sur Christ, repousse-les. Acquiert cette volonté ferme de ne pas se laisser impliquer dans des joutes verbales. Le chrétien n'est pas cancanier. C'est simplement ça. Le chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui aime confronter. Ce n'est pas quelqu'un qui embête les autres, qui aime pousser les autres dans leur dernier retranchement. Au contraire, il œuvre pour la paix. Il veut que l'Église soit tranquille. Donc les anciens et toute l'Église travaillent à ce que l'on vive en paix. Et ça veut parfois dire, effectivement, que ben, notre opinion ne va pas être acceptée. Ça, c'était notre premier point. Il nous faut ensuite mentionner que l'Église vigilante veille sur son témoignage. Dans trois domaines, le domaine du ministère, de la sanctification et puis de la communication. Verset 15, l'Écriture nous dit « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas à rougir et qui dispense avec droiture la parole de la vérité. » Un homme qui a fait ses preuves, c'est quelqu'un d'authentique et de vrai. Quelqu'un d'authentique et de vrai, et aussi quelqu'un qui a été testé. Et comment reconnaître ce genre de dirigeant-là dans l'Église? Eh bien, il y a trois caractéristiques-là que nous pouvons citer. Premièrement, un homme qui a été testé, qui est authentique, qui est vrai, qui fait ses preuves, eh bien, c'est un homme qui est diligent et souvent le premier à dire « Prions pour savoir quelle est la volonté de Dieu ». Romains 12, verset 2, l'Écriture nous dit de ne pas nous laisser conformer, mouler, changer par la mentalité du monde extérieur, mais d'être renouvelé dans notre intelligence pour faire quoi? Pour discerner quelle est la volonté de Dieu. Donc, un chrétien sérieux et un ancien sérieux, c'est quelqu'un qui se dit, non pas « qu'est-ce que je veux ?» Mais qu'est-ce que Dieu veut dans cette situation? Deuxièmement, c'est quelqu'un qui a du discernement des esprits. Et cela va de pair avec le discernement de la volonté de Dieu. Dans 1 Jean 4, 1, l'Écriture nous dit voilà, de ne pas prêter foi à tous les esprits, mais au contraire d'exercer un certain discernement. Et je rappelle, c'est nécessaire, que le discernement des esprits n'est pas une espèce d'odorat spirituel mystique qui vous permet de détecter si une personne est démonisée ou pas. Et parce que quand on lit ça, souvent, c'est la première application qu'on fait. Lui, il sent quand il y a quelqu'un qui est louche et puis qui a fait un pacte avec Satan. Ce n'est pas du tout ce dont parle Jean. Le discernement des esprits, c'est l'identification de mauvaises doctrines. Les esprits ne fonctionnent pas dans le vide. Les esprits rebelles à Dieu, leur activité principale n'est pas de sauter sur les gens et puis de les transformer en sorciers, ou etc. Leur activité principale, c'est de mentir et de mentir sur Jésus et de glisser les mensonges dans l'esprit des gens. Quand quelqu'un vous dit que Dieu n'existe pas, quand quelqu'un vous dit la crucifixion, la foi, c'est un ramassis de n'importe quoi, Oui, il est en train de gober l'esprit de ce monde. Il est en train de consommer l'enseignement des mauvais esprits qui veulent détourner les gens de la vérité. Il s'agit d'identifier les mauvaises doctrines et de dire la vérité aux individus pour contrer les mensonges du diable. Et puis, troisièmement, quelqu'un qui est un ouvrier qui n'a pas à rougir, eh bien, il se voit par son amour pour son prochain. Dans 2 Corinthiens 9, verset 13, nous devons aimer les autres, en particulier ceux qui ne sont pas aimables. Tout cela pour dire quoi? C'est que, certes, nous devons évaluer la qualité de nos dirigeants. Nous devons nous dire, est-ce qu'on a vraiment de bons anciens, de bons pasteurs? L'Église a le droit de se poser la question. Est-ce que mon pasteur, est-ce qu'on doit le garder? Est-ce qu'il ne faut pas virer notre pasteur? Parfois, les églises doivent se poser la question. Okay? Ne vous la posez pas trop tôt dans mon cas. Mais vous, à un moment ou à un autre, il faut se dire, mais ok, est-ce qu'on le garde ou pas? Okay, c'est la responsabilité de l'Église. Parce que les anciens, sans doute, vont tirer la sonnette d'alarme, mais je veux rappeler ici que l'autorité suprême après Jésus dans l'Église, c'est l'Église. Et l'Église, c'est qui? C'est vous. Et Paul rappelle à Timothée que ce qui va faire une évaluation suprême de son ministère, ce ne sont pas premièrement les chiffres. C'est-à-dire, on va pas demander, Paul n'a pas demandé à Timothée combien de conversions il y a eu cette semaine, combien de baptêmes il y a eu cette année. Ah, Timothée, les chiffres ne sont pas bons, hein? Je vois une diminution là du nombre de membres de l'Église. Ce n'est pas normal. Il faut que tu augmentes ta production. Ce n'est pas comme ça qu'on discerne si on a un bon pasteur. Alors, il ne faut pas non plus totalement écarter les chiffres. Si votre Église se vide depuis que votre pasteur est arrivé, bon, ça peut être mauvais signe. Mais ce n'est pas ça la base principale. Timothée doit ressembler à Jésus. Et Paul dit à Timothée, écoute, tu dois être prouvé comme quelqu'un dont le caractère ressemble à son maître. On ne doit pas se poser 10 000 questions entre la lecture du caractère de Jésus et puis te regarder agir. On ne doit pas se dire, oh là là, mais quelle catastrophe. Tu dois être un ouvrier qui a fait ses preuves dans l'amour, dans la... le fait de parler et d'enseigner la bonne doctrine et de convaincre les autres de changer justement pour Jésus. Le pasteur et l'Église donc doivent être veillantes, elles doivent être vigilantes en veillant sur son témoignage. Dans le domaine de la sanctification, l'Écriture nous dit que dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, il y a aussi des vases de bois et de terre. Un usage noble pour les uns, un usage vil. Et si donc quelqu'un se purifie, il sera un vase, d'un usage noble, sanctifié, utile à son maître et propre à toute bonne œuvre. Les anciens et l'Église doivent aimer la pureté et s'éloigner de tout ce qui est injuste. Et Paul, là, utilise une image forte. Dans les maisons, il y avait des vases, il y avait des coupes, il y avait des ustensiles qui étaient utilisés comme vaisselle, comme ornement, comme décoration. Et dépendant des maisons, ces instruments pouvaient être parfois très luxueux, en or, en argent. Et ils servaient, dans ce cas, à se nourrir, ou pour embellir la maison. D'autres instruments, d'autres vases, d'autres pots étaient utilisés pour des usages vils, nous dit l'Écriture. Ils étaient utilisés, pardonnez-moi l'image, pour les vidanges, comme poubelle, lorsqu'il y avait des restes de repas. On les mettait là-dedans et puis on les jetait dans la décharge publique. Ou bien, Ils étaient utilisés comme toilettes, eau de chambre, pour ceux qui ont connu l'époque. L'image est forte. L'image nous dit, tu as une utilité pour Jésus. Et tu dois choisir la meilleure utilité. Et Paul accompagne ça de cette exhortation. Il dit à Timothée, qui est plus jeune, écoute, tu dois fuir les passions de la jeunesse. Le terme est très vague, et même moi, je fais l'erreur de le citer hors du contexte, et puis de dire, bon ben, les enfants, vous devez vous méfier de tout ce qui est sexe, drogue et rock'n'roll. Mais dans le contexte, ce n'est pas ce dont Paul parle ici. L'idée était que les jeunes devaient se garder de l'esprit, de la mentalité dont j'ai déjà parlé ici, de penser que parce qu'ils ont un iPhone et qu'ils savent manipuler l'intelligence artificielle, ils sont plus intelligents que leurs aînés. Et je vois beaucoup de parents dire « Amen ». Le message est enregistré, forcez les ados à le regarder cet après-midi. L'Écriture dit aux adolescents, aux jeunes personnes, cherche, trouve ta place dans la société et ta place n'est pas au-dessus de tes aînés à les mépriser. Ta place est en dessous à les regarder, vivre, agir. Dans certains cas, à dénoncer leur inconsistance, mais à apprendre pour que toi-même tu puisses grandir et être quelqu'un d'honorable. Paul exhorte Timothée, donc, à encourager les jeunes aussi, mais à être lui-même quelqu'un qui ne se rebelle pas contre l'ordre établi. Certains pensent que c'est le rôle de la jeunesse, de tout démolir, de tout casser. Ce n'est pas vrai. Bibliquement, ce n'est absolument pas le cas. L'Écriture exhorte les jeunes à observer, oui, à améliorer quand c'est nécessaire, mais jamais à faire la révolution. Notre utilité sera fonction de notre désir d'honorer le Maître par des vies qui se débarrassent du mal qui les déteste. Et je voudrais là aussi faire un appel aux jeunes rapidement. Je reviens à l'image des vases. Chers jeunes, Jésus te lance un défi. Ça va être quoi l'utilité de ta vie? Parce que Paul le dit et l'Écriture le démontre, vous pouvez le relire dans Romains 9, toutes les vies sont utiles. Il n'y a pas de vie sur terre qui soit inutile. Toutes les vies sont utiles. Il y a des vies qui seront utiles pour montrer la grâce de Dieu, sa grandeur. Il y a d'autres vies qui vont être utiles pour démontrer que Dieu est parfaitement juste et que le mal est haïssable. Je rappelle que Jésus, dans les derniers temps, c'est lui qui va s'asseoir et juger le monde. Il va exposer le mal qu'ont fait tous les êtres humains et démontrer que leur condamnation est juste. Jésus va ressortir des dossiers et à moins que nous n'ayons fait ce que lui préconise, il va exposer chaque seconde de notre vie et en particulier toutes les mauvaises choses qu'on aura faites. Et certains théologiens disent que après cette exposition-là, normalement, tout le monde devrait dire « Ok, ben je vais en enfer, c'est normal. » Mais le problème, c'est que la Bible nous dit « Non, non, il y a des gens qui vont voir tout ça et qui vont quand même dire à Jésus « Oui, mais j'ai fait des tonnes de choses pour toi. J'étais à l'église. Jean-Élie m'endormait d'ailleurs tous les dimanches avec ce message. » J'ai supporté le bonhomme pendant des années. Regarde tout ce que j'ai fait pour toi, Jésus. Et ces mêmes personnes-là vont se faire entendre dire, je ne te connais pas. Je ne sais pas qui tu es. Il n'y a aucun rapport entre toi et moi. Parce que tu as vécu toute ta vie pour toi. Tu ne l'as pas vécu pour moi. Ce n'est pas ce que Jésus souhaite. Jésus souhaite offrir mieux. En fait, si vous lisez ce qui arrive à ceux qu'il va approuver, vous allez découvrir qu'il ne mentionne jamais aucune erreur. pour eux, Jésus est, ou pour lui, pardon, ces personnes-là sont parfaites. Mais il me faut terminer. Le dernier point de notre message avant l'application, c'est cette communication. Il ne faut pas que le serviteur du Seigneur ait des querelles. Il faut qu'il soit affable envers tous, il faut qu'il ait le don d'enseigner, de supporter. Il doit redresser avec douceur les contradictoires, dans l'espoir que Dieu leur donnera la repentance. Ici, Paul fait référence, je pense, à un groupe différent du début. Là où il commandait à Timothée une approche radicale envers Hyménée et Alexandre et Philette, là il dit, écoute, non, il faut se comporter avec un peu plus de douceur. En gros, un dirigeant d'église doit être gentil, doux, envers tous en général, et en particulier envers ceux qui sont séduits par de mauvaises doctrines. Il doit enseigner patiemment, il doit endurer les difficultés sans se mettre en colère, sans être bouleversé. C'est ce que le terme veut dire. Juste une histoire que j'ai entendue cette semaine. Je vais raconter à Liv, ça m'a fait plaisir. Il y a un pasteur des États-Unis qui a eu à cœur d'enseigner les Mormons. Il va dans l'État de l'Utah. Et chaque année, ils ont au moins un rassemblement général. Il va là-bas et il leur prêche l'évangile. Et ce pasteur raconte qu'une année, il était allé et il avait parlé à plusieurs personnes, dont une jeune fille, à qui il avait donné un traité. Il avait commencé à lui expliquer qui est Jésus véritablement et pourquoi la parole de Dieu est digne de confiance. Et cette jeune fille, elle a été furieuse. Elle a déchiré le tract. Et elle lui a craché dessus. Et le pasteur raconte, ben, quand ça lui est arrivé, vous savez ce qu'il a fait? Ben, il a continué. Il a essuyé le crachat et puis il a continué d'enseigner l'évangile. Une année après, le même pasteur, il a voulu commencer une église. Et il faisait des veillées de prière et les gens priaient pendant toute la nuit pour savoir quelle est la volonté de Dieu, où on va implanter l'église. Et puis, il a un ami qui est venu, minuit. L'ami vient prier. Et puis, l'ami vient avec quelqu'un, avec une jeune fille. Et la jeune fille, elle dit bonjour, et puis elle se met dans un coin. Et puis, on prie. Et puis, après quelque temps, on voit que la jeune fille est en train de pleurer. Et donc, au début, on ne s'occupe pas trop d'elle. Mais après, on va la voir parce qu'elle pleure vraiment fort. Et donc, le pasteur va la voir et la jeune fille lui dit, vous ne vous rappelez pas de moi? Il dit, non, je ne crois pas. Et il dit, l'année dernière, vous étiez allé dans l'État de l'Utah, j'avais pris vos tracts et je vous ai craché dessus. Elle a dit, ah oui, maintenant je me rappelle. Elle a dit, quand vous êtes parti, je suis allé récupérer les tracts que j'avais déchirés et j'ai dit, je vais les lire et je vais étudier l'enseignement de Joseph Smith jusqu'à ce que je puisse démonter votre argumentation. Alors j'ai lu le livre des Mormons, j'ai lu la Bible, j'ai lu le livre des Mormons, j'ai lu la Bible et puis finalement, Jésus m'a sauvé. Et je suis revenu vous demander pardon. Et vous dire que maintenant je suis une nouvelle création en Jésus. Ce pasteur-là, pour information, il était ceinture noire, je ne sais pas combien de dan de karaté. Je ne sais pas moi, il a subi un assaut, il aurait pu répondre et puis latter la jeune fille devant tout le monde. Il n'a pas fait ça, il n'a pas besoin de faire ça. Il a essuyé le crachat et puis il a dit on continue, Jésus a subi pire. Quand on est chrétien, quand on est un pasteur, on fait de même. Dieu ne contemple pas seulement la vérité, mais la manière dont elle est défendue. Et humilier l'autre, l'insulter, lui faire comprendre qu'il n'est rien, bon, ben, c'est pas le meilleur moyen de convaincre quelqu'un. Et puis notons simplement que c'est Dieu qui accorde la repentance. Il faut terminer. Juste deux choses que je voudrais vous dire. Nous devons rechercher un saint équilibre dans notre vie entre doctrine et action. Nous n'avons pas le droit d'être des chrétiens cérébraux qui réfléchissons à la parole de Dieu et puis qui ne mettons pas en pratique. Et je rappelle là tout un chacun, particulièrement aux parents, que vos enfants ne sont pas dupes. Vos enfants ne sont pas des idiots. Si vous venez là bien habillé le dimanche matin, chanter des cantiques, et que pendant le reste de la semaine, vous vous comportez comme des diables incarnés, ben vos enfants ne sont pas dupes. Ils savent. Hein? On se dit, il y a quelqu'un qui ment dans cette histoire. Et laissez-moi vous dire que ce n'est pas Jésus. Nous ne pouvons pas être des chrétiens uniquement focalisés sur le cérébral, lié au cantique, lié au des versets, et puis ça ne se voit pas dans notre vie. Et puis, à l'inverse, on ne peut pas être des chrétiens actifs, focalisés sur l'amour et l'évangélisation, si on ne connaît pas l'évangile et l'écriture. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre. La deuxième chose que je voudrais dire, et dernière chose, c'est qu'il nous faut apprendre à gérer les conflits. La paix ne veut pas dire l'absence de tout conflit. Les conflits sont inévitables. J'aime le dire à tous les couples qui font de la préparation au mariage. Vous ne vous êtes pas encore disputés. Ça va venir. Aussi sûr que le soleil se lève demain, ne vous en faites pas. Vous allez vous disputer. Vous allez vous disputer pour des trucs complètement débiles. Est-ce que tu presses le tube de dentifrice? Ou bien la pâte à dents, ou bien est-ce que tu enroules la pâte à dents? Voilà, vous avez un bon sujet de dispute. Comment on arrange la serviette dans les toilettes? Est-ce qu'on arrange la serviette dans les toilettes? Les conflits sont inévitables. Et donc certaines attitudes, certaines paroles doivent être confrontées et reprises. Maintenant, l'Écriture nous dit que nous devons apprendre aussi à être doux, patients. Jésus, sa gloire doivent être l'objectif de nos arguments. Pas notre opinion, pas corriger l'autre, mais comment Jésus va être honoré. Et puis, si l'autre n'est pas enseignable, il faut apprendre à se retirer et puis à ne pas insister. Prions et puis demandons au Seigneur qu'il accorde la repentance. On va terminer là. Seigneur, que le Seigneur nous garde, nous maintienne vigilants, frères et sœurs. Prions. Seigneur, fais grâce à ton Église au plateau. Donne-lui de ne jamais être orgueilleuse, indolente ou douce avec le mal. Donne-nous, Seigneur, de te refléter dans ta haine de tout ce qui ne t'honore pas et ne te glorifie pas. Viens agir, Seigneur, dans ceux qui peut-être étaient parmi nous et se sont éloignés à cause de mauvaises doctrines, à cause de disputes du passé. Viens consoler les cœurs, viens accorder repentance, foi, amour, réconciliation. Et que notre attitude, Seigneur, fasse la différence dans la vie de nos concitoyens, de nos familles, de cette Église aussi. Viens nous donner d'être vigilants, de te ressembler, de te glorifier en tout. Et nous t'avons prié dans le nom de Jésus. Amen.